Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
En direct de la Gaîté Lyrique pour le festival I Love Transmedia, Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Ce soir, pas de matinale de 19h, exceptionnellement, mais une émission spéciale avec un plateau en direct du festival I Love Transmedia au cœur de la Gaîté Lyrique. Un festival consacré aux écritures transmédia et aux nouvelles écritures en général, qui a commencé hier et qui se déroulera jusqu'à dimanche à la Gaîté Lyrique. C'est gratuit et c'est en accès libre. Alors pendant une heure, nous allons recevoir de nombreux invités qui viendront discuter avec nous des principales thématiques qui seront abordées lors de cette 5e édition du festival. Nous recevrons d'abord le sémillant Jérémy Pouillou, fondateur et président du festival. À ses côtés, on aura Adrien qui viendra nous représenter un des projets étudiants qu'on peut voir à la Gaîté Lyrique. Ensuite, nous aurons l'inénarrable Philippe Bourquin de France Télévisions qui viendra nous dire si oui ou non la réalité virtuelle a un avenir et si oui ou non est-il radieux. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'opération Le Grand Dada Remix qui se déroulera samedi à la Gaîté Lyrique avec la polyglotte dadaïste Anita Ougui. Puis nous parlerons de théâtre réinventé avec le bipède hominidé François Lozé. Et nous terminerons l'émission en parlant de musique, de numérique et de jonglage avec les artistes du spectacle Slow Future qui aura lieu également samedi soir à la Gaîté Lyrique. À mes côtés tout au long de cette émission, Christine Siméon.
Bonsoir.
Journaliste sur France Inter. Un programme d'émission donc très chargé, un programme original, un programme bigarré à l'occasion, à l'image pardon, de ce festival I Love Transmedia. Alors ne perdons pas plus de temps en palabres introductives et en adjectifs hasardeux. Radio Campus Paris en direct du festival I Love Transmedia, c'est maintenant.
Radio Campus Paris, parce que le monde bouge.
Alors on reçoit ce soir Jérémy Pouillou, donc fondateur de ce festival. Bonsoir Jérémy Pouillou.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Ça va bien ? Pas trop éreinté par ce festival ?
Si, un peu, mais très content aussi. Donc oui, c'est une grosse préparation, donc maintenant ça y est, c'est à visiter.
Donc on l'a dit, c'est vous le fondateur et le président de l'association Transmedia Immersive University qui est organisatrice de l'événement. Vous êtes également, je crois, producteur associé à la Générale de Production et secrétaire général de l'association PXN qui représente les producteurs indépendants d'expériences numériques. Donc vous êtes un peu l'homme de la situation ce soir. Qu'est-ce qui vous a poussé il y a 5 ans à fonder le festival I Love Transmedia et est-ce que vous pensez qu'il aurait ce visage aujourd'hui ?
Alors qu'il aurait ce visage aujourd'hui, non, mais j'en suis très heureux parce que c'est un festival qui a beaucoup grossi, donc on pourra peut-être en raconter un peu là-dessus. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est qu'on essayait de produire des œuvres dites transmédia, c'est-à-dire des œuvres qui vont recourir à plusieurs plateformes pour raconter des histoires, ou des œuvres innovantes dans le secteur des médias, et il se trouve qu'on avait un projet, nous, à la Générale de Production, qui était un projet ambitieux de fiction transmédia, qu'on n'a pas du tout réussi à vendre, mais en revanche qui a fait sens à l'international. Donc on a eu des échos dans la communauté transmédia internationale, et on s'est dit, en revenant en France, soit on continue à porter ces projets, mais du coup, ça nécessite beaucoup de travail en R&D, donc c'est des risques industriels importants, soit on arrête, mais pour continuer, on s'est dit, la meilleure manière, c'est d'accompagner les publics, c'est d'accompagner les diffuseurs potentiels dans la compréhension de ces projets.
Donc c'était un objectif de promotion des dispositifs transmédia. Est-ce qu'on peut resituer un peu pour nos auditeurs ce que c'est qu'un dispositif transmédia ?
Alors très rapidement, parce qu'il y a une grande diversité d'œuvres transmédia, mais vous pouvez avoir des œuvres, bon, peut-être en citer quelques-unes qui ont fait date, par exemple. Donc il y a une œuvre par exemple qui s'appelle The Truth About Marika, qui est une histoire qui met en scène un personnage qui disparaît. Et du coup, la communauté va être convoquée pour aller à la recherche de ce personnage. Donc, elle suit une série à la télé, elle suit un débat également à la télé, débat qui met en scène les personnages qui sont en fait des personnages de fiction, mais qui jouent comme s'ils étaient des personnages réels, les producteurs de la série ou d'autres intervenants de cet univers. Et puis ils vont mener l'enquête pour retrouver ce personnage et donc la mener dans la vraie vie. Voilà,
c'est, d'accord. C'est donc des dispositifs multiplateformes avec beaucoup d'interactions avec le public.
Voilà, c'est un exemple de dispositif pour expliquer le mot transmédia. Mais ce sont des écritures qui avant tout travaillent sur la position du public, la place du public dans les œuvres et son implication dans les œuvres. Donc d'essayer de renforcer l'implication dans les œuvres, donc enfin pour susciter des émotions plus fortes.
Voilà, parce que ce qu'on réalise rapidement en lisant le programme de I Love Transmedia, c'est qu'il n'est pas question que de transmédia, loin de là.
Parce que le transmédia regroupe en définitive une grande variété d'œuvres. Et en fait, on emploie ce terme qui est un terme qui fait évidemment débat. Ça, c'est toujours dans les questions de termes au sein des spécialistes. Mais c'est un terme qui aujourd'hui regroupe l'intégralité des œuvres innovantes dans le domaine des médias. Aussi bien des écritures interactives, même si elles sont monoplateformes, que des écritures linéaires web, que des écritures en réalité virtuelle, que des écritures vraiment transmédia au sens puriste du terme.
D'accord. Et donc à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Là, aujourd'hui, c'est un festival qui commence un peu à s'installer, on va dire, dans le paysage, puisque ça devient un peu un rendez-vous pour tous les acteurs, principalement de la création. Quel est le type de public que vous essayez d'attirer à cet événement? Est-ce que c'est grand public? Est-ce que c'est plus professionnel? Est-ce que c'est plus étudiant dans ces secteurs-là?
Alors, l'objectif, c'est d'accueillir très largement et les professionnels et le grand public. Donc, c'est un exercice périlleux de s'adresser à la fois à des spécialistes du genre et donc d'être assez pointu sur les questions qu'on peut évoquer. Et en même temps, d'être dans la représentation d'un patrimoine et une représentation qui est ouverte puisque l'événement est gratuit. Donc, d'aller chercher les publics, public natif de la Gaîté Lyrique, par exemple. Ou d'autres publics, on essaie de chercher. Et l'idée, c'est de montrer ce patrimoine et sa richesse à des publics qui ne les connaissent pas forcément toujours.
Alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'on peut voir de sexy à la Gaîté Lyrique, là, dans les prochains jours, dans le cadre du festival à l'Off Transmédia?
Alors, vous avez plein de choses. Alors, me faire résumer le programme une seconde.
Juste les parties les plus
saillantes.
Voilà, ouais. Exactement.
Ah oui, on me souligne un projet en particulier, mais je n'en parlerai pas car c'est un peu un projet hot.
D'accord, très bien.
Mais vous avez une exposition qui regroupe à la fois des projets de réalité virtuelle. Réalité virtuelle, c'est des projets soit de fiction, soit de jeux vidéo, soit de documentaire. Vous positionnez un casque sur les yeux et ça vous permet de voir à 360 des univers. Donc là, il y a toute une exposition au sous-sol de la Gaîté Lyrique. Et vous avez une exposition vous avez une programmation de cinéma interactif. Donc ça, c'est très intéressant aussi puisque c'est une manière de réinterroger la fonction de la salle de cinéma et la notion d'expérience collective. C'est vrai que là, aujourd'hui, on peut regarder des films dans son salon dans des qualités exceptionnelles. Et donc, on peut s'interroger aussi sur la raison d'être du cinéma. Mais là, en l'occurrence, ça travaille sur cette notion de réunion, d'expérience collective devant un programme, puisqu'on interagit ensemble autour d'un programme.
D'accord. Donc, on peut avoir. Donc, il y a ces projections-là, en réalité virtuelle. Il y a aussi des projections collectives interactives, je crois, qui sont préparées.
C'est celle-là, c'est donc le cinéma interactif. Ouais. Donc, tous les soirs, le jeudi soir et le vendredi soir, donc ce soir et demain soir. Et les expositions en réalité virtuelle sont durant les 4 jours, donc jusqu'à dimanche. Voilà, il faut venir prendre un ticket pour avoir sa séance et pouvoir découvrir ce patrimoine incroyable.
Et donc, une des raisons d'être, je crois, également de l'association Transmédia Immersive University, c'était également de s'adresser aux étudiants, aux écoles, parce que pour créer une filière, il faut effectivement qu'il y ait toute une pédagogie pour qu'on comprenne ces projets-là, mais il faut également qu'il y ait des formations qui, justement, préparent des élèves à produire ce genre de contenu.
Alors ça, c'est tout le travail qu'on a fait depuis le départ, donc à l'origine, au moment de la création de l'événement, qui était évidemment aussi un moyen de pouvoir produire sans coût, parce que nous étions les sociétés de production sont sous-capitalisées par nature, mais sur ce marché-là, on a tous eu une période où on a beaucoup investi en recherche et développement, et donc on n'avait pas de moyens en autofinancement pour fabriquer des œuvres pour les montrer. Donc l'idée a été d'aller travailler main dans la main avec des écoles, des formations initiales, et de bâtir ensemble des projets pour pouvoir les montrer et donc essayer de travailler sur une chaîne vertueuse permettant aux diffuseurs de voir ces projets et donc de les financer plus tard.
Donc on a autour de ce plateau donc Adrien qui est
Bonsoir.
Bonsoir. Qui est également donc étudiant. Et donc toi, tu as participé justement à la Transmedia Immersive University pour un projet que tu as porté donc dans le cadre de ton école.
Exactement. L'école des Gobelins.
D'accord, l'école des Gobelins. Donc du coup, vous avez quel est le projet que vous êtes en train de nous présenter là à la Gaîté Lyrique?
Alors le projet s'appelle Inside et c'est avant tout une application mobile qui permet de filmer et retransmettre les concerts en live.
D'accord, donc c'est un peu un service quoi finalement.
C'est un service qu'on propose aux organisateurs et des salles de concert, enfin aux gérants des salles de concert. Et l'application est disponible pour les utilisateurs gratuitement, ceux qui filment et ceux qui visionnent par la suite. Ou chez eux, quand ils sont installés dans leur canapé, ils peuvent par exemple visionner un concert en live et les gens sont en train de filmer dans le festival ou le concert. Donc
en fait, il faut espérer que votre projet ne réussisse pas parce que ça incite les gens à filmer pendant les concerts, ce qui est un peu détestable.
Eh bien, il y en a qui pensent ça. Nous, on a fait le constat que la plupart des gens, beaucoup de gens filment, utilisent leur téléphone. C'est d'ailleurs de là qu'on a trouvé cette idée. Et on a voulu exploiter ce potentiel, en fait, car les gens filment un point de vue unique, leur contenu n'est pas mis en valeur, il est diffusé quelques amis, peut-être sur YouTube. Si on veut voir l'intégralité d'un concert, il faut chercher sur YouTube les différentes vidéos qui ne sont pas très bonne qualité. Donc c'est à partir de là qu'on a développé Inside.
D'accord.
Donc l'idée, c'est aussi pour mettre en valeur les salles de concert qui sont en manque de notoriété, qui n'ont pas les moyens de diffuser, de faire des captations professionnelles.
Et est-ce que vous envisagez la possibilité qu'on puisse après coup revoir le concert avec les différents angles de vue comme enregistrés ?
L'idée, c'était également de pouvoir revivre l'intégralité d'un concert en replay avec les mêmes interactions, de pouvoir visionner l'ensemble des points de vue, de mettre pause, de rechanger de point de vue, de remettre play, etc.
Ok, super. Donc le projet Inside, on peut venir le voir à la Gaîté Lyrique jusqu'à dimanche.
Exact, oui.
Et il y a également une adresse web où on peut avoir
teaser, par exemple. C'est inside-live.com.
Très bien, inside-live.org.
.com.
Tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy?
Il a fini par compléter ce que je voulais ajouter, mais c'est vrai que c'est un projet formidable et qu'on était très contents de pouvoir les accompagner dans le processus de création de ce projet et de pouvoir les exposer ici.
Ouais, nous, on est bien contents d'être là, tous très motivés.
Ben, y a 9 projets donc, de différentes écoles qui sont à venir découvrir en accès libre donc à la Gaîté Lyrique jusqu'à dimanche. Je vous incite à venir les voir parce que les étudiants sont là pour vous les présenter en général de manière assez passionnée. Merci beaucoup à Jérémy et Adrien d'être venus sur ce plateau pour commencer cette émission.
Merci beaucoup à toi.
À présent, nous allons continuer en rentrant cette fois un peu plus dans le vif du sujet pour parler du nouveau média, on va dire, qui affole le plus la production numérique de ces dernières années, voire même de ces derniers mois. Je veux bien sûr parler de la réalité virtuelle.
Radio Campus Paris, en direct de la Gaîté Lyrique, pour le festival I Love Transmedia.
Donc bonsoir Alban, nous avons donc deux nouvelles personnes autour de la table. Alban qui vient de sauter de son RER.
Exactement.
Qui arrive, plein de questions et de sueurs.
C'est génial, on dirait qu'on est dans un espèce d'aquarium ici, c'est extraordinaire.
Ouais,
on est juste isolé de la salle, mais on voit la salle.
Voilà,
tous les gens qui jouent dehors.
Les gens savent qu'il faut aller écouter la radio quoi. et donc ce soir, tu es venu nous parler de réalité virtuelle. Alors que vient de se clore à l'instant, il y a une dizaine de minutes, une table ronde intitulée de manière assez eschatologique, réalité virtuelle pour une université du désastre. Et donc, à tes côtés, nous avons Philippe Bourquin, chargé de l'innovation chez France Télévisions sur ces questions-là, qui sort de cette table ronde.
Tout à fait, bonjour.
Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce plateau.
C'est un plaisir.
Est-ce que votre titre n'a pas été écorché? Parce que je dis chargé de l'innovation chez France Télévisions.
Non, mais c'est très bien. Je dirige le développement et l'innovation, c'est très bien.
Ok, très bien.
Ah bah, alors du coup avec vous on va parler d'échecs, Philippe Bourquin, donc bonjour, bonsoir. Parce que donc vous sortez, hein, Alexandre vient de le dire, d'une conférence qui pourrait paraître un petit peu sinistre. Réalité virtuelle pour une université du désastre, c'était pas trop déprimant comme table ronde?
Non, ça l'était pas, enfin on a essayé de mettre un petit peu d'espoir, mais la question est légitime en fait, puisque... Il y avait un participant qui disait on est exactement dans la phase où on y a tous cru et puis il y a un petit point où on a beaucoup de papiers qui expliquent que ça va être un désastre et ça repart un petit peu. Alors je vous avoue que je me sentais un petit peu seul parce que il y avait énormément de personnes qui travaillaient dans la réalité virtuelle. Moi c'est pas vraiment mon cas, moi je suis chez France Télévisions.
Il ouais, y avait notamment Marianne Leville-Leblond d'Arte, Antoine Cayrol de Fat Cat Film. Oui, c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de projets futuristes, de projets qui vont changer le monde. Et puis, bah, parfois, parfois, ça se plante. Vous arrivez à France
pour être certain de que qu'on resitue la réalité virtuelle, c'est donc ces casques qu'on se met et donc qui recréent à 360 degrés un univers qui a été recréé, quoi.
Exactement.
Voilà, dans lequel on est immergé.
Bah, pour répondre à la question, oui, on a vu énormément de technologies débarquer depuis plusieurs années. On a vu la 3D relief, on a vu la télévision connectée, on a dit que tout le monde aurait un écran sur ses genoux pour pouvoir interagir sur les émissions. On a vu énormément de choses comme ça. Et c'est vrai que certaines d'entre elles n'ont pas eu le succès escompté, mais tout est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un succès ? Et donc, je dis souvent qu'on ne peut pas forcément parler d'échec si on n'a pas déterminé le succès. Et donc, on peut raisonnablement croire que la VR sera une forme de succès.
Je vois votre voisine à côté
oui.
qui...
Oui, moi, j'étais étonnée par ce frémissement là qui agite les professionnels. Parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'en fait, le grand public, globalement, c'est à peine ce que c'est qu'un casque de réalité virtuelle. Que même les cardboards qui ont beau être en carton, à la limite, personne ne sait encore ce que c'est. Je fais exprès d'exagérer, mais à peine. Et bah, je me dis, alors les professionnels sont déjà demander qui va gagner le match entre l'interactivité et la réalité virtuelle. De toute façon, le grand public, à mon avis, est assez peu ni dans le premier sujet, ni dans le second.
Mais la question, il y a quelque chose de présupposé dans ce que tu dis, Christine, c'est que tu dis que les personnes ne connaissent pas encore le carton en réalité virtuelle, mais l'enjeu, c'est de savoir s'ils vont le connaître. De toute manière.
Alors justement, moi là-dessus, je suis plutôt positif, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il va s'en vendre des casques. Je suis assez. Ce qui compte, c'est est-ce que les gens vont s'en servir et combien de fois ils vont s'en servir. C'est-à-dire que ce que je disais en rigolant tout à l'heure, c'est que il y a des centrifugeuses à l'intérieur des foyers. On ne sait pas si les gens s'en servent. On pense plutôt pas. Il y a des drones qui ont été vendus en masse. Il y a des GoPro. Il y a plein de choses dont on était persuadé que ça serait un échec retentissant en termes de vente. Et la téléconnectée là-dessus, qui était un exemple d'échec, est un succès. C'est-à-dire qu'il y a énormément de téléconnectées qui ont été vendues. Mais est-ce que les gens s'en servent et est-ce que ça correspond à la promesse et à l'ambition qu'on avait fait porter à cet objet? C'est sûr que non.
Alors du coup, concrètement, vous aujourd'hui à France Télévisions, à l'innovation, qu'est-ce que vous portez comme projet? Alors c'est vrai que vous avez porté pas mal de projets innovants par le passé, je pensais à pas mal de choses, notamment par exemple à France TV Zoom, là on sort un petit peu de la réalité virtuelle, mais voilà, qu'est-ce que vous avez dans les cartons?
Un projet auquel je tenais énormément personnellement.
Ouais, voilà. Sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à France Télévision dans les cartons en réalité virtuelle?
Alors pour être tout à fait honnête, je pense pas être la meilleure personne pour vous en parler, mais c'est vrai qu'on on a quand même plusieurs actions chez France Télévisions. On a celle d'être le premier partenaire de la création et premier partenaire de l'innovation, et donc forcément la VR nous intéresse beaucoup parce que c'est ce qui anime les créateurs et l'innovation. Et donc là-dessus, on finance des projets. Et donc, par exemple, il y a The Enemy qui est un projet qu'on peut voir ici dans une exposition au sous-sol. Donc ça fait partie des projets. On a toutes justement les nouvelles écritures qui est une direction dédiée qui s'occupe de tous ces sujets, notamment la VR. Après, de l'autre côté, on n'a pas de projets qui sont, en bon français, des game changers pour France Télévisions. On travaille plus sur les bots, sur Facebook, sur YouTube.
Alors c'est là que vous devancez un petit peu ma question. C'est est-ce que, étant donné que la réalité virtuelle, on vient de le dire, n'est pas très connue du grand public, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'investir dans de l'innovation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se concentrer juste sur ce qu'on fait déjà, sur ce qui est déjà connu en fait? De réduire la voilure, typiquement, je pense que le cas à France Télévisions peut peut-être se poser avec encore plus.
Alors, certainement, alors peut-être moins chez France Télévisions que chez d'autres, puisque notre vocation est quand même la satisfaction des clients qui ont payé leur redevance, et donc on se doit d'explorer et d'aller toujours plus loin pour satisfaire leurs attentes. Mais la question se pose, la question que vous posez, c'est quand même la question de l'innovation. C'est à un moment, on sait très bien que pour innover, il faut accepter l'échec et il faut accepter d'explorer avec ce fameux risque de se tromper. Donc, la tentation de ne faire que ce qu'on faisait avant, elle est peu présente. En revanche, le fait de ne pas s'y jeter à corps perdu, c'est quelque chose que tout bon gestionnaire doit garder en tête.
Donc là, actuellement, par exemple, à France Télévisions, vous avez combien de projets en réalité virtuelle qui sont en route, en développement, en écriture ?
À ma connaissance, il y en a une demi-douzaine, quelque chose comme ça. Mais je ne saurais pas vraiment vous dire exactement quel est leur degré de maturité, puisque, encore une fois, je ne suis vraiment pas le mieux placé. Mais moi, ce qui me surprend tout le temps, alors ça va peut-être vous surprendre vous aussi, c'est ce lien qu'on fait entre les chaînes de télévision et la VR. C'est-à-dire que si j'étais forain, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que là, pour le coup, ça serait mon Uber à moi, c'est-à-dire la VR va arriver et tous les gens qui vont arriver vont vouloir une expérience immersive et donc il faut que je m'adapte. Une chaîne de télé, c'est quoi l'avenir de la VR pour une chaîne de télé ? C'est qu'on espère qu'il y aura un casque à côté de la télécommande et que les gens ils vont le mettre en disant « merci, on se revoit dans 2 heures ». Ça, j'ai plus de mal à y croire.
Alors c'est là-dessus notamment que je voulais aussi vous relancer. C'est vrai que dans ce qui s'est dit à I Love Transmedia durant l'après-midi, notamment dans une des conférences, est sortie cette idée que la télévision, justement, elle n'avait pas beaucoup de lien avec la réalité augmentée, qu'il fallait peut-être arrêter de compter sur la télévision.
Oui, pas beaucoup de lien avec la réalité virtuelle, pas beaucoup de lien avec la création interactive aussi peut-être, et que c'était peut-être une anomalie qu'à l'époque elle se soit jetée à corps perdu dedans et qu'elle revient sur son cœur de métier, quoi.
Après, pas beaucoup de lien, il y a beaucoup de lien avec le financement de la création. Donc le cinéma n'a pas toujours un lien, il en a un en tant que diffusion, mais tous les films financés par les chaînes de télé sont pas forcément tous diffusés à l'antenne, et donc il y a un lien de financement de la création, et c'est un modèle français dont tout le monde est
plutôt
satisfait.
Mais sur le projet de réalité virtuelle, par exemple, on pourrait voir plus d'ennemis dans le futur avec France Télévisions.
Peut-être, l'avenir nous le dira, surtout les succès des expériences présentes nous le diront, mais surtout ce que je crois, pour faire le lien avec la question précédente, c'est qu'il y aura beaucoup de projets qui ne seront pas financés par des chaînes de télé et par d'autres acteurs, parce que c'est un mouvement de fond, un mouvement très positif, mais qui ne s'arrête pas à la télé.
Oui, est-ce que le lien, ce ne serait pas le temps passé à se distraire, à regarder des choses ? Est-ce que ce n'est pas là que la télé, elle a quelque chose à se dire et à interroger ? C'est pendant que vous êtes sous vos casques de réalité virtuelle, vous n'êtes pas derrière la télé de papa et...
Alors, peut-être, mais dans ces cas-là, on en a beaucoup des comme ça. On a, on a les jeux vidéo, on a Facebook.
Il y a beaucoup d'usages qui changent, justement.
Mais tout à fait. Mais c'est aussi à ce titre qu'on s'intéresse à toute forme d'image et de distraction pour le public et d'information, d'ailleurs. Hein, parce qu'il n'y a pas que de la distraction dans la VR. Mais moi, je vois pas ça du tout comme une concurrence ou une nouvelle concurrence. C'est un nouveau médium à explorer. Et encore une fois, si ça se trouve, on sera très content de voir que ça n'a peu de rapport avec la télé, mais que pour autant, ça trouve son public. La 3D, on a dit que c'était l'avenir de la télé. Ce n'est pas l'avenir de la télé, maintenant, on peut le dire officiellement. C'est un scoop. Donc, ce n'est pas l'avenir de la télé, mais pourtant, ça a trouvé son public dans les cinémas. Et c'est très bien comme ça aussi.
C'est ça qui est important, Philippe Bourquin, c'est de trouver son public. Typiquement, quand on lance des projets un peu innovants, hein, comme vous avez pu le connaître avec France TV Zoom, que ça ne prend pas tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, on prolonge un peu, on se donne un peu de temps.
Alors oui, c'est ce qu'on peut se dire. Il faut aussi mettre en place les bons critères de jugement, parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'un succès. Typiquement pour Zoom, on a vu ce qu'était le succès de Zoom, c'est-à-dire d'avoir trouvé son public en termes de ton. C'est pour ça que Zoom continue d'exister et vit très très bien sur les réseaux sociaux.
En revanche, Zoom, qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, pardon.
Pour le rappeler, c'était une application qui avait comme promesse d'un petit peu révolutionner la façon d'accéder en mobile notamment et sur le web à la télévision. D'accord. Avec notamment la possibilité d'avoir un contenu adapté au temps qu'on a disponible dans un transport en commun ou quelque chose comme ça. Bon. Il se trouve que ça, on a fait le constat chez France Télévisions, que l'aspect application mobile rencontrait pas forcément le succès qu'on espérait. En revanche, le ton qui était développé, la façon de s'adresser à cette cible qui était plus jeune, plus dynamique, plus loin des codes de la télé traditionnelle,
c'est intéressant, et vous l'avez gardé
sur les réseaux sociaux. Mm-hmm.
Alors juste pour conclure sur cette petite partie sur la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est les autres champs de recherche et d'innovation pour France Télévisions aujourd'hui, à part la réalité virtuelle qui est quelque chose qui a déjà émergé, on va dire, ou qui est en train d'être connu en tout cas ?
Alors, je vais peut-être vous décevoir parce qu'il y aura peut-être moins d'effets waouh que la réalité virtuelle.
typiquement. À voir.
Non, mais typiquement, aujourd'hui, quand on voit ce que fait Facebook et YouTube en termes de diffusion vidéo, c'est un champ d'exploration qui est énorme pour nous. C'est-à-dire qu'on doit adapter nos contenus, on doit s'adapter y compris même à la verticalité des vidéos, puisque aujourd'hui, elles étaient toutes horizontales. Nous, demain, elles seront peut-être toutes verticales. Donc, ça change tout pour nous. Hein. On peut essayer de retourner les écrans, mais ça va être plus dur. Donc typiquement, Facebook, YouTube, c'est vraiment une vraie préoccupation.
S'adapter à leurs produits existants.
On a les bots, la possibilité donc de robots de vous parler. Et donc
c'est les robots conversationnels.
Exactement, c'est peut-être l'avenir de l'interface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait une interface où on venait et on vous poussait une information. Maintenant, on peut interagir avec elle assez facilement.
Un peu plus waouh, ça déjà.
Ça vous plaît plus. Je sentais qu'ici, c'était
un peu
ça.
Un plus waouh, un peu plus brrr, ça fait un peu peur quoi, de parler à les robots conversationnels. Mais
c'est toute innovation. Exactement. Voilà, concentrons-nous sur celle-là déjà. Bon, il y en a d'autres, mais on en parlera plus tard.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Philippe Bourquin, d'être venu sur ce plateau.
Merci de votre invitation.
Mais je vous en prie, pour nous parler de réalité virtuelle. Merci aussi à Alban pour cet entretien.
Merci Alexandre. Je retourne enfiler mon casque.
Mais oui, mais non, mais je t'en prie. De toute façon, l'horaire a encore du retard, donc t'es pas pressé d'y retourner. On va continuer notre émission avec la première pause musicale. On écoute ça tout de suite.
Après un dur voyage, un vieux donjon branlant se dresse sur la rive. Le théâtre sans doute de très anciens carnages, et l'un d'entre nous dit: restons sur le qui-vive. La lourde porte d'enfer qui protège la tour ne nous résiste pas, s'ouvrant sur la pénombre. Les éclaireurs d'une légion plus forte. Il faudra, j'en ai peur, qu'on prenne ce couloir. N'oubliez pas avant de faire leur poche aux morts. C'est une sale besogne digne des charognards, mais c'est ainsi qu'on trouve des armes et de l'or. Nous ne sommes que des rois, rapière à la main, fille d'elfes et guerrière, Adarana la blonde, Gaëlan de Mallorca, aux trois quarts magicien, et moi l'aventurière qui doit sauver le monde. Autres portes encore, laquelle faut-il choisir? Nous les ouvrirons toutes, il faut rendre visite au seigneur de ces lieux, l'infâme Karazir, chanoine dévoyé d'une église maudite. Et s'il y avait un piège, regardons bien partout. Tenez, voyez ici ces lames acérées. Si nous les déclenchions, plus de tête sur nos coups. Par chance, Adarana sait les désamorcer. C'est ici à l'attaque, prenez garde aux vampires. Ils défendent le mage qui va lancer un sort. Mais trop tard, je te tiens, à nous de triste sire. Je vais te faire payer ton manque de remords. Gagnons notre aventure, et puis sortons d'ici. Allons revoir le ciel, reposons-nous un peu, guérissons nos blessures, et rentrons à la ville annoncer la nouvelle. Nous ne sommes que toi, la rapière à la main, fille d'elfe et guerrière, Adarna la blonde, Gaëlan de Niort, aux trois quarts magiciens, et moi l'aventurière qui doit sauver le monde. En notre absence, hélas, le mal a empiré, et la ville est tombée aux mains des adversaires. Une armée mort-vivante nous attend dès l'entrée, aux ordres maléfiques d'un dragon sanguinaire. Nous sommes encerclés, une seule tactique, on fonce dans le tas, pas de quartier à haut. Découpons en lanières ces zombies fanatiques, et qu'ils sachent pourquoi nous sommes des héros. Ils sont bien trop nombreux, le désastre est total. L'elfe monde est frappé d'un sort qui la rend folle. Et Gaëlan gémit, fichons le camp, ça se passe mal. Une hache dans le dos lui coupe la parole. Pas le temps, mon ami, pour faire des funérailles. Je suis seul désormais, et le dragon s'avance. Quand une voix en colère interrompt la bataille, et tous les combattants se figent en silence. Vous êtes encore à jouer sur cet ordinateur? Vous n'avez pas de boulot? Vous vous fichez du monde? Si je vous y reprends, vous irez voir ailleurs. Me dit la DRH d'une voix furibonde. À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.
Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Nous venons d'écouter Fantasy Héroïque par Juliette qui nous racontait donc son épopée au sein d'un jeu vidéo de manière très lyrique.
Mais ça termine mal. Hein.
Oui, ça termine très mal puisque son patron s'en aperçoit. Donc nous sommes toujours en direct du festival I Love Transmedia à la Gaîté Lyrique. Nous continuons cette émission spéciale avec Anita Ougui, co-auteur et co-réalisatrice de Dada Data, qui vient nous parler du grand Dada Remix qui aura lieu samedi à 14h à la Gaîté Lyrique. Bonsoir Anita.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci d'être venu. Donc le grand Dada Remix qui aura lieu samedi, c'est un projet qui a lieu dans le cadre de Dada Data. Est-ce qu'on peut déjà présenter Dada Data à nos auditeurs?
Oh, Dada Data, c'est un documentaire interactif que j'ai donc co-réalisé. J'ai eu le plaisir et la folie de co-réaliser avec David Dufresne et Acouphène, le studio à Montréalais. Et donc, c'est un projet, un documentaire interactif dédié à l'esprit Dada, disons. Plutôt à l'esprit que au mouvement d'art et l'histoire d'art, mais il y en a ça aussi.
Pas une commémoration, quoi.
À chacun de décider soi-même, venir dadadata.net.
D'accord, dadadata.net, c'est encore accessible, donc on peut y aller. Et donc, le grand Dada Remix, c'est quelque chose qui a émané, je crois, d'un hackathon qui a été mené par la suite, donc.
Exactement. En fait, Dada Data, c'est aussi une série d'actions, comme on les appelle. Et chaque action est dédiée à une discipline Dada, qui était née il y a 100 ans, par exemple le collage ou le poème simultané, ou aussi le manifeste. Donc, on avait créé le 4 et le 5 mars 2016, à Zurich, au Cabaret Voltaire, donc une sorte de hackathon Dada.
Cabaret Voltaire, qui était donc le lieu historique de naissance du mouvement Dada.
Absolument, à Zurich, après, dans la vieille ville, humide, pas intéressante, il y a 100 ans, aujourd'hui, bien sûr, très pittoresque. mais le Cabaret Voltaire, il existe à nouveau depuis environ 12 ans. Il a été squatté, en fait, par des jeunes, et après est redevenu un lieu de commémoration vivante. Voilà, et c'est là où on avait aussi installé des choses de notre projet interactif qui reliait l'analogue et le digital, le local et l'international. Bon, alors le 4 et le 5, on avait donc ce grand Dada Manifesto à Zurich et un des participants qui est venu avait fait un manifeste qui nous a plu énormément et avec lequel qu'on ne connaissait pas du tout avant, qui est venu comme ça, comme peut-être demain il y aurait des gens qui vont participer et qui vont continuer le chemin avec nous. Donc lui, il avait fait un manifeste qui nous a plu et avec lui, on a Thomas Preusset, on a ensuite Donc travailler sur une nouvelle petite machine qui va être inaugurée ici demain et qui va proposer une sorte d'écriture automatique d'ADA avec les archives de l'INA, c'est 400 000 vidéos.
Donc c'est quoi, c'est un algorithme ou un programme qui va donc aller piocher aléatoirement des images dans les archives de l'INA?
C'est les deux. C'est l'aléatoire, mais c'est aussi l'intervention de l'artiste, que nous sommes toutes et tous. Que dit Dada? En fait, donc, on pourra aller en ligne, et on aura à la base les 400 000 vidéos de l'INA. On mettra des mots à son choix. Par exemple, Radio Campus, mais ça va être remixé. Complètement au hasard. Ça va être remixé, mais aussi ajouté avec des mots-clés qu'on prédéfinit, c'est Dada, Data et Guerre. Donc on aura un premier résultat qui est écrit automatiquement, une vidéo qui est écrite automatiquement grâce à cette petite machine que Thomas a designée et développée avec nous. Et après, on pourra, dans un deuxième temps, faire des choix. Donc, chacun et chacune pourra faire des choix des pièces qu'elle veut garder ou remixer. Et à la fin, après 2 heures, on pourra présenter son Dada manifeste qu'on a créé ici, sur place, sur son ordinateur.
Mais ces 400 000 vidéos de l'INA, en fait, elles traitent de quoi? Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits de thèmes sur ces vidéos?
Non, c'est l'ensemble. C'est vraiment, c'était un grand travail et très chouette avec eux. Et donc là, c'est vraiment Lazare qui va questionner ces archives et les mettre à disposition. Moi, je suis suisse, donc pour moi, c'est peut-être un peu moins fort que pour les Français, mais dans les tests, on a bien vu que les Français étaient très charmés en fait par les résultats, parce que ça crée vraiment de nouveaux liens. C'est Lazare, c'est la juxtaposition qui crée de nouvelles connexions, de sens.
Oui,
ou
ça
pas
parle
sensé.
Plus aux Français parce que c'est le patrimoine français qui est dans les archives.
En vous écoutant, je me reposais la question comment est-ce qu'on définit exactement le mouvement Dada? Tout simplement. Alors, c'est la pierre dans l'eau.
Ah non, mais c'est une question.
En fait, c'est le fait d'associer des choses, mettre des choses ensemble qui n'ont pas forcément de lien.
Je crois que Dada, ça cherche à ne pas définir les choses, mais à les vivre. Comme nous le disons, on ne peut comprendre Dada, il faut en faire l'expérience. C'est un peu de cette devise qu'on a créé tout le projet, donc on a créé ces actions qui invitent à comprendre ou pas Dada. Qu'est-ce que c'est? Je dirais, oui, c'était un mouvement de jeunesse à Zurich. Mm-hmm. Ils avaient tous entre 17 et 29 ans quand ils ont créé ce mouvement. Je pense que c'est ça, et c'est plutôt un mouvement qu'un courant d'art. Je dirais.
D'accord.
Mais après, c'est pas intéressant, il faut juste voir et le vivre.
Un courant d'air, on pourrait dire, pour être Dada.
Et du coup, les personnes qui peuvent assister et participer, qui sont-elles? Tout le monde a accepté?
Tout le monde qui a envie de venir, de faire une expérience, c'est vraiment ouvert à tous et toutes, comme c'était le Cabaret Voltaire, donc l'appel à tout le monde de venir présenter son art. Il y a 100 ans, on appelle à tout le monde qui a envie de jouer avec ça. Et c'est vraiment très accessible. Vous allez voir, c'est comme une petite salle de montage Dada sur l'ordinateur qui va être déclenché. On va aller en ligne et ça va être comme un petit logiciel de montage, mais ça va être un logiciel de montage Dada.
Donc pour tous nos auditeurs, avec son ordinateur, pardon.
Voilà, tous nos auditeurs qui sont curieux de vidéos, intéressés par la mouvement dadaïste ou toutes les formes de création populaire et qui jouent sur l'interaction et qui jouent également sur le détournement, ont donc rendez-vous à la Gaîté Lyrique samedi à 14h30, c'est ça?
14h30, exactement, mais c'est pas seulement des vidéos Dada, loin de ça, hein, c'est de Dada à Dalida, il y a tout, hein, c'est tout qui sera là et qui sera mis dans un nouveau contexte et des nouveaux liens.
Ah bah
c'est le lien qui nous lie.
D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde, rendez-vous est pris samedi à 14h30 avec un ordinateur ou...
Oui, avec un ordinateur, pour venir expérimenter ce mélange de mix d'idées, d'algorithmes et tout ça.
Et on le rappelle, donc le projet Dada Data qui est toujours visible en ligne. Donc à l'adresse
dadadata.net.
Merci beaucoup, merci Anita Ougui, d'être venue nous présenter le grand Dada Remix. On va maintenant continuer l'émission en restant un petit peu dans la même thématique, puisqu'on va parler du théâtre réinventé en compagnie donc toujours de Christine Siméon et de Alban Barthélémy, mais nous recevons donc François Lauzé, auteur, producteur et compositeur.
Radio Campus Paris en direct du festival I Love Transmedia.
Bonsoir François Lauzet, nous allons donc maintenant parler de théâtre réinventé, terme que j'ai directement repris de la table ronde du même nom qui aura lieu demain à 16h15 à laquelle vous allez participer je crois.
C'est ça.
Dans l'auditorium de la Gaîté Lyrique, donc c'est une table ronde en partenariat avec le théâtre des Champs-Élysées. J'ai lu votre biographie sur internet, mais elle était tellement dense et diversifiée que je ne suis pas vraiment arrivé à faire un résumé. Est-ce que vous aurez la capacité de synthèse suffisante pour vous présenter?
Non, mais en fait, je suis vraiment issu de cette génération qui a vécu la transition du numérique. C'est-à-dire qu'un appareil photo, c'était un appareil photo il y a 30 ans, c'est maintenant un téléphone portable. Donc je fais effectivement plusieurs choses à partir du numérique. Et notamment réfléchir sur ce qu'on appelle un nouveau média, réfléchir sur ce qu'est un média aussi déjà.
Donc une activité académique déjà ?
Il y a une activité académique puisque je suis prof, enfin chargé de cours à Paris 13 sur ces sujets-là. Et puis il y a une activité de réflexion autour de ce que c'est que le spectacle vivant à l'heure de cette transition-là. Ce qu'il faut savoir, puisque on intervient demain à propos du théâtre des Champs-Élysées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 81, l'âge moyen des spectateurs de concerts classiques, c'était 36 ans. Et une étude en 2014-2015 d'un professeur de Paris 8, sociologue, a montré que l'âge moyen des spectateurs de musique classique, c'était 63 ans maintenant.
Donc c'est les mêmes qui sont restés.
C'est quasiment aucun renouvellement des publics. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme de consommation de culture qui s'est mise en place. Une forme de consommation qu'il va falloir interroger aussi, puisque ça bouleverse entièrement, finalement, le paradigme culturel tel qu'on le connaît. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le numérique, ça introduit une sorte de bouleversement du rapport de l'individuel au collectif et de l'individuel à la mémoire collective, quoi. Et donc, à partir de ce moment où ce bouleversement intervient, ça change forcément les modes de formation et les formes culturelles, quoi.
Et donc c'était effectivement la première question que j'avais prévue, qui était peut-être une question un peu frontale et polémique, qui aurait pu peut-être créer un clash pour ensuite susciter le buzz qui serait amplifié et déformé sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui vous porte à croire en fait que le renouveau du théâtre devrait passer justement par le numérique ?
C'est pas uniquement par le numérique, c'est le renouveau, le spectacle vivant lui-même. Ce n'est jamais qu'une forme d'immersion, c'est-à-dire on vient faire en sorte que le public s'immerge au même moment dans une sorte de boîte noire, que ce soit le cinéma ou le théâtre, pour rêver ensemble au même rêve. On est dans une forme de média linéaire, de fait, mais il y a une forme de rêverie passive qui est assez agréable. On nous raconte des histoires, quoi. Donc ce qu'il y a d'intéressant maintenant, c'est de réussir à faire entendre par le téléphone portable, par la tablette, par des médias interactifs, ce qui a été toujours le plus intéressant à faire entendre dans un média, c'est-à-dire la parole du lointain. Quand la première des révolutions médiatiques, c'est l'écriture. L'écriture, ça fait entendre la parole du lointain dans une communauté orale. Mmh. Et ce n'est pas uniquement la parole du lointain géographique qui fait intervenir l'ordre du roi lointain, etc. Les empires qui se construisent, ils se construisent à cause de l'écriture. Ça fait entendre la parole des morts. L'écriture nous permet d'entendre, d'une certaine façon, ce qui a été pensé par des personnes, ce qui a été joué par des personnes il y a 400 ou 500 ans. Quand je lis Montaigne maintenant, j'ai l'impression d'entendre Montaigne.
Comment est-ce qu'on fait justement pour qu'aujourd'hui d'autres personnes, des vivants donc, pourquoi pas, continuent à entendre la parole de Montaigne sur scène,
parole de Montaigne ou l'opéra de Monteverdi, puisque en fait je suis là pour parler de l'opération transmédia pour les Champs-Élysées. C'est effectivement ça. Comment faire en sorte que l'opéra baroque puisse être entendu par les nouvelles générations ?
Mais excusez-moi, pourquoi faut-il vraiment qu'on entende l'opéra baroque aujourd'hui ? Enfin, la création, c'est tous les jours, et on peut très bien se passer de l'opéra baroque.
Alors, d'une certaine façon, oui, on peut vivre dans une société sans mémoire.
C'est-à-dire... Non, mais la mémoire, elle s'invente aujourd'hui.
Elle s'invente aujourd'hui, mais l'opéra, dans l'opéra baroque ou dans n'importe quelle forme culturelle, je conçois très très bien qu'on puisse mettre en compétition toutes les formes culturelles. Moi, je viens du spectacle vivant et plutôt, non pas du classique, mais plutôt de la musique actuelle, du rock alternatif, du jazz, du free jazz ou tout ce que vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que pour créer aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé avant.
Et alors, par exemple,
pour faire entendre le retour d'Ulysse en sa patrie, c'est-à-dire cet opéra de Monteverdi du théâtre des Champs-Élysées, il faut réussir à faire entendre par exemple, qu'il y a dans le destin d'Ulysse ou dans le destin de Pénélope, puisqu'on travaille sur Pénélope dans ce projet Transmédia, dans le destin de Pénélope, donc une femme qui a vécu ou pas il y a 2500 ans, même plus en fait, qui a quelque chose d'actuel aussi, qui nous travaille encore.
Et donc quel est le dispositif précisément que vous avez mis en place autour de cette opéra ?
C'est vraiment une sorte d'univers narratif complet. C'est-à-dire, il y a plusieurs écoles qui sont agrégées autour de ce projet. Principalement, au départ, le campus de la Fonderie de Limoges et Paris 13, pour lequel je travaille, je suis référent d'une licence scénariste Nouveaux Médias, où on réfléchit justement à la manière de raconter des histoires sur ces nouveaux médias, c'est-à-dire cette manière linéaire et puis cette manière interactive de raconter des histoires, comment on crée une communauté. En fait, toutes les communautés se créent à partir des fonctions narratives qu'on lui donne. Cette licence va s'occuper plutôt de l'animation sur les réseaux sociaux des personnages de l'opéra.
Donc vous allez donner vie au personnage de
l'opéra. On va donner vie au personnage de l'opéra. Après, l'école supérieure du digital va s'occuper du blog de Pénélope. Pénélope va tenir un blog.
D'accord.
On s'occupe du destin de Pénélope, en grande partie parce que, notamment dans l'idée du transmédia, il y a cette idée d'un contre-champ où on cherche à densifier l'univers fictif en lui donnant le plus de détails possible. Donc on va chercher à jouer avec ce qui n'est pas dit dans l'Odyssée d'Homère, en disant ce que Pénélope vit pendant les 20 ans où elle est finalement abandonnée à son sort de reine, puisqu'elle c'était une gouvernante.
D'accord.
Elle gouvernait Ithaque.
Mais ça me fait penser que c'est un peu une façon de mettre du texte ancien dans des tuyaux modernes. Or, quand on crée quelque chose avec les technologies d'aujourd'hui, c'est l'écriture même et le texte même ne pas partir de la même source, en fait.
De fait, on c'est pas le texte ancien à mettre dans des tuyaux modernes, c'est une métamorphose du texte ancien. On ne peut pas dire la même chose dans des tuyaux modernes.
Vous allez le reformuler, tous les textes vont être redits, en fait, Pénélope était en 2016.
À partir du moment où Télémaque tient Snapchat, c'est pas du tout Télémaque.
Effectivement.
C'est à partir du moment où on fait simplement comprendre que dans la destinée humaine, la tragédie d'être humain et mortel, il y a quelque chose qui est commun à un homme d'il y a 3000 ans et un homme d'aujourd'hui.
Qui, du coup, est-ce qui pourra profiter de ce dispositif à partir de quand? Comment est-ce qu'on peut...
Alors, à partir de début novembre, les réseaux sociaux vont être activés par les licences. Et donc, on va vivre les vies des différents personnages du personnage de l'opéra.
Avant la représentation.
Avant la représentation, d'accord. Puisque en fait l'opération a lieu sur les 20 semaines, ou quasiment 20 semaines, qui débutent avant la création de l'opéra, d'accord, au Théâtre des Champs-Élysées.
Okay.
Et puis ensuite, il va y avoir différentes opérations, des affiches en réalité augmentée, enfin, on va faire en sorte de faire connaître une œuvre,
d'accord,
qui fait partie d'un patrimoine, d'une mémoire.
Donc ce sera autant une manière de réactualiser une œuvre qui fait partie de ce patrimoine que d'avoir une stratégie de diffusion originale aussi autour de cette œuvre.
C'est pas une
la pièce ne change pas en tant que telle.
Non, ça sera l'opéra. L'opéra tel qu'il est va être créé tel quel au Théâtre des Champs-Élysées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas uniquement une opération de communication, c'est une autre manière de faire éprouver préalablement l'univers de cet opéra.
Oui, alors ça sert souvent de teasing. En fait, moi, j'ai remarqué que finalement, les plus belles opérations, et je pense à Richard III notamment,
on est dans la lignée.
D'utilisation de ces nouvelles technologies, finalement, elles sont, j'ai envie de dire, plus efficaces ou plus épatantes, je ne sais pas si vous direz effet waouh, dans l'avant-pièce et dans l'avant-scène.
C'est un peu le principe, finalement. On cherche à faire en sorte de densifier l'univers fictif de l'opéra, de façon à ce que finalement le moment de la représentation devienne un moment d'extraction dans le réel de cet univers fictif qu'on a préparé préalablement.
Est-ce que ça rajeunira le public? Vraiment.
On pourra en répondre
à la fin de l'opération. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le public qui fait médiation, c'est un public qui est au départ l'ensemble des écoles, les écoles Condé, l'école 42, les étudiants de Paris 8, les étudiants de Paris 13 et du campus de la Fonderie de Limoges, l'école supérieure du digital, ces étudiants au départ sont assez éloignés de l'opéra.
Oui, donc au moins pour les étudiants au qui participent pour... au processus, et donc, et on saura pour... que eux connaîtront
ça,
l'opéra.
Ça sera de la communication virale.
Et après, on verra si la viralité fera son travail pour faire que d'autres personnes puissent venir réunir l'audience des opéras. Merci beaucoup, François Lozé, d'être venu nous présenter ce dispositif.
Merci.
Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre émission. Nous allons parler d'un spectacle au carrefour des arts du cirque, de la musique et du numérique qui s'appelle Slow Future. Et ce sera juste après une dernière pause musicale. Nous allons justement écouter un extrait de la bande-son du spectacle Slow Future, bande-son composée par le groupe Zombie Zombie. De plus en plus chaud de la gaieté lyrique où la chaleur humaine s'accumule. Nous allons donc conclure cette émission avec Elsa Guérin et Cosmic Neyman du groupe Zombie Zombie qui viennent nous parler de Slow Future, un spectacle qui sera présenté samedi à 22h dans la grande salle de la gaieté lyrique. Bonsoir à vous deux déjà, merci d'être venus.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors c'est assez étonnant parce que le I Love Transmedia, c'est un festival qui est quand même plutôt consacré à la création numérique, à la réalité virtuelle, au transmédia. En quoi est-ce que Slow Future avait sa place au sein d'un festival pareil finalement?
Écoutez, je ne sais pas si c'est une question qu'il faudrait plutôt poser au programmateur ou à l'organisateur. En quoi ça fait...
D'accord, donc ça vous paraît bizarre aussi ?
Absolument pas.
D'accord.
Non, absolument pas. Mais le choix de programmer du spectacle vivant, c'est-à-dire que l'on est plus dans le domaine du spectacle vivant, c'est peut-être une ouverture qu'ils ont souhaitée pour essayer de lier l'idée du numérique à une idée un petit peu plus large que simplement des outils qu'on peut s'approprier dans une salle, mais aussi à l'idée de création artistique.
Alors c'est vrai qu'il y a un dispositif assez original puisque dans Slow Future, on a donc deux jongleurs qui jonglent sur un tapis roulant. Et on a en même temps la musique live du groupe Zombie Zombie, qui est un groupe de musique électronique donc. Et les deux tentent en fait de créer une forme d'unité entre justement ces jongleurs qui défilent et le groupe qui compose. Donc quelles sont les interactions que vous avez sur scène en fait entre les jongleurs et le groupe? Est-ce que vous avez un set qui est déjà calé et qui est le même en fait entre guillemets à chaque spectacle, ou est-ce qu'il y a des interactions?
La musique est écrite, hein, c'est comme la musique d'un film, hein, elle est composée, donc effectivement il y a une trame assez précise tout au long du spectacle. Après, ça ne nous empêche pas de nous laisser des moments où on peut évoluer différemment selon les soirs, mais il y a quand même des tops qu'on doit respecter tout au long de le du spectacle. Après, c'est vrai que, pour revenir à ta question précédente, nous, on n'utilise pas du tout de technique digitale. On n'utilise que des vieux synthétiseurs analogiques. Il n'y a pas de... Donc, ça nous permet... C'est des instruments de musique, c'est pas des ordinateurs. Donc, ça nous permet de... justement de varier et surtout ça nous oblige, on peut jamais faire exactement la même chose tous les soirs parce qu'il y a rien qui est enregistré.
Alors tout c'est vrai, jouer sur scène quoi.
Voilà, je pense qu'on a une vision, bon, je pense qu'on se retrouve ici à cause aussi peut-être du titre Slow Future, on a
de l'esthétique du spectacle.
Voilà, qui est assez futuriste, mais je pense qu'on a une version à l'ancienne du futur qui pour moi est la plus, enfin peut-être par rapport à notre enfance.
Une nostalgie du futur un peu.
Oui, j'ai l'impression que pour moi, l'image du futur dans les années 70 était beaucoup plus excitante visuellement.
Oui, dans les films de science-fiction.
Oui, voilà, dans l'image et pareil, les instruments de musique qu'aujourd'hui avec le digital. Moi, ça, c'est mon avis personnel, même s'il y a des outils digitaux très intéressants. Voilà, mais...
Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené justement à collaborer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, du jonglage
non,
et de la
disons
musique électronique.
Au départ, l'idée de cette création, donc, c'est Martin Palis et moi-même qui travaillons ensemble depuis 15 ans sous l'appellation Cirque Bang Bang, c'était le nom de notre compagnie. On travaille sur une idée du jonglage un petit peu singulière, un peu sensible, très minimaliste. On essaie d'amener dans nos mises en scène une orientation esthétique et plastique un petit peu nouvelle par rapport à tout ce qu'on peut voir. Y compris dans le cirque contemporain, et de créer notre esthétique aussi en lien avec nos goûts musicaux. Donc on a voulu pour cette création aller directement vers les musiques qui nous touchent, à savoir des musiques progressives, répétitives, qui peuvent se rapprocher des tendances de la musique électronique. Effectivement, c'est pour ça que je pense que Zombie parfois sont classifiés en musique électro, mais ce n'est pas tout à fait la bonne manière de vous qualifier, je pense, quoi. Voilà, je sais pas, c'est ce que je me dis. Bon, en tout cas, Martin et moi, on avait très très envie de travailler avec une création musicale originale et encore plus avec les musiciens qui peuvent la produire en live. Et on a une espèce de, dans notre démarche, une espèce de leitmotiv qui est de travailler sur la notion d'écriture. Donc ça peut être des écritures très très composées ou aussi, parce que Neyman a parlé de ça à l'instant, des écritures où qui laissent place à l'improvisation.
D'accord.
À ce qui se passe dans l'instant. De toute façon, c'est une donnée impérative du spectacle vivant.
C'est le cas dans Slow Future pour vous ?
C'est le cas, bien que ce soit une pièce très très écrite. Justement. C'est ce que disait Neyman, c'est comme la musique, mais ce qui n'empêche pas un aspect vivant, c'est-à-dire que eux comme nous, on ne fait pas la même chose tous les soirs à chaque fois. Il y a une écriture, il y a une structure, mais il y a des petites parties où on se doit d'être à l'écoute des uns des autres, et c'est à ces endroits-là que le spectacle vit, et c'est pas juste une reproduction comme une vidéo. Voilà.
D'accord, donc c'est un spectacle qu'on pourra retrouver donc samedi à 22h à la Gaîté Lyrique, c'est en accès libre et gratuit, mes souvenirs sont exacts. Donc c'est à 22h, peut-être venir à un peu avant si on va avoir le chance d'avoir des places, parce qu'il
n'y a pas de liste de réservation.
Voilà, il n'y a pas de liste de réservation, venir, il faudra être là, il faudra faire du présentiel justement, lors du numérique, c'est bien de le rappeler. Où est-ce qu'on pourra encore voir ce spectacle par la suite ?
Là, alors, de tête, dans plein d'endroits, au Luxembourg, à Verdun. Alors, on a déjà pas mal joué. On a fait la Villette au mois de mars. On a joué à mettre en scène au Théâtre National de Bretagne en novembre. Voilà. J'ai pas toute
D'accord.
la liste en
on
tête.
On pourra de toute façon taper Slow Future sur Internet, j'imagine.
Je peux rajouter juste une petite
alors,
chose sur l'esthétique, parce que c'est très très rapidement. Donc
alors,
on a
non, en fait, on est en train
parlé.
De lancer le générique de fin, c'est malheureusement. Merci d'être venu. C'était très rapide. Mais en tout cas, on vous invite à venir voir le spectacle samedi à 22h. Cette émission touche à sa fin, mais le festival lui continue jusqu'à dimanche soir en libre accès avec de nombreux événements gratuits. Vous pouvez découvrir le reste et tester des prototypes des projets étudiants toute la journée à la Gaîté Lyrique, de la réalité virtuelle, etc. Merci de nous avoir suivis sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.